Alors, comme vous le savez déjà, M. Appartient est décédé dans son sommeil mercredi soir dernier à 22h30. Durant des dizaines et des dizaines d'années, Dieu lui a donné d'être le berger au service de l'œuvre francophone à travers le monde. Si je cherche des mots pour identifier un peu sa façon de faire, qui il était, ce qu'il a apporté à chacun de nous autres dans l'Église, ce qu'il a apporté au service de la maison de Dieu, j'ai mis une petite liste de mots et vous allez voir, ça correspond au caractère de ce grand serviteur de Dieu. Le premier, c'est enthousiasme. Hein? Enthousiasme pour le plan de Dieu, pour la vérité, pour le royaume qui s'en vient. Le deuxième mot, fidélité. On sentait chez lui jamais, on ne sentait jamais chez lui une hésitation d'aller de l'avant pour terminer l'œuvre ou pour changer les choses qui devaient être changées. Zèle, un autre mot qui me vient à l'esprit quand j'ai préparé ce message-là. Persévérance. Oh, combien persévérant. Il y en a passé des choses, M. Appartient, dans plus de 55 années de ministère. À servir, à aider, à soutenir, à encourager, à consoler, à aider à comprendre. Toujours soucieux de plaire à Dieu et de servir les autres. Ça, on le sentait. C'était pas pour lui qu'il faisait ça. On le sentait. Il avait pas besoin de le dire. Et tout ça, il le faisait de façon très particulière dans la dignité. Quand on pense à lui, on pense à un homme digne, serein, toujours respectueux, qui prend le temps d'écouter les autres, qui prend le temps de répondre avec sagesse. Quand il ne sait pas la réponse, il attend, il va prier Dieu, il revient et il donne la réponse. Ça, c'est lui, un serviteur de Dieu qui a appris à compter sur Dieu tous les jours et dans les grandes choses comme dans les petites choses, parce qu'il voulait vraiment faire la volonté de Dieu. Puis pour envelopper tout ça, le dernier mot que j'ai mis, qui met l'emballage, si vous voulez, à sa nature, à son caractère, vous allez comprendre tout de suite, la joie. Hein, combien de fois il nous a dit dans ses messages, « Soyez toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. Vous avez un appel extraordinaire, vous avez une vision du futur qui est unique et qui est réelle, parce que les choses véritables s'en viennent. Celles qu'on vit présentement ne sont que passagères. » Soyez joyeux en toutes choses. C'est ça, votre joie, ce qui s'en vient. Même si pour un temps, nous avons des infirmités physiques, nous avons des déceptions, des frustrations, des malaises de toutes sortes ou des déceptions, ce n'est que passager. Le véritable et le vrai et le durable s'en vient. C'est le monde à venir. C'est le royaume de Dieu. Gardez vos yeux là-dessus. Et si vous faites ça, vous allez être toujours joyeux comme le commandement du Christ nous donne. C'est ça que nous disait M. Appartient régulièrement dans ses messages. Et c'était tellement encourageant. M. Appartient, et je sais que je ne me trompe pas du tout en disant ça, a profondément marqué la vie de la plupart d'entre nous. Je dis la plupart parce qu'il y a certains qui sont plus récents, qui ont moins connu M. Appartient, mais la plupart d'entre nous, nous avons été marqués profondément par sa vie. Et l'exemple qu'il nous a donné nous montre puissamment la voie à suivre. Dans le fond, ce qu'il a enseigné, il l'a vécu jusqu'au bout. Et il nous a dit, suivez ces traces-là, suivez mon exemple, comme moi je suis l'exemple du Christ. D'où le titre de mon sermon aujourd'hui, Monsieur Appartient, un exemple. Et je vais aller plus loin tantôt là-dessus vers la fin de mon sermon. Monsieur Appartient, un exemple. Dans certaines circonstances de la vie, j'aime à me rappeler un passage très spécial de la Bible. Je l'ai déjà utilisé à des tournants de ma vie dans le passé. Et je m'en sers encore aujourd'hui. Vous pouvez le noter, vous irez voir chez vous après le sermon, mais vous allez trouver ce passage-là qui m'a touché beaucoup et que je garde en mémoire et dont je me rappelle à certains moments précis de mon existence. C'est Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Et je résume en mes termes, ou à peu près les termes de ce passage-là. Ça dit, « Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour garder et un temps pour jeter. N'est-ce pas exact? Un temps pour pleurer, un temps pour rire. N'est-ce pas exact aussi? C'est la description de la vie humaine. Un temps pour arracher, un temps pour planter. Et aussi un temps pour naître et un temps pour mourir. Et c'est vrai aussi pour tous les êtres humains. C'était vrai pour M. Appartient qui a fini sa course. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous qui sommes encore vivants et qui sommes ici. Si vous allez voir dans psaume 116, verset 15, Dieu dit ceci, c'est tellement encourageant. Monsieur Appartient s'est endormi avant le retour de Christ. Certains d'entre nous vont également s'endormir avant le retour de Christ, selon la volonté de Dieu. Mais il faut savoir que ce que Dieu veut, c'est toujours la meilleure chose pour nous autres. C'est toujours ça. Et dans psaume 116, verset 15, il est écrit cette petite phrase encourageante qui nous donne comment Dieu perçoit ses enfants, ceux qu'il a appelés et ceux qui s'efforcent à vivre selon ses voies et qu'il appelle ses enfants. Dieu dit ceci, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » La mort de ses enfants qui aiment Dieu, qui aiment leur Père. Et aimer Dieu, on sait que c'est s'efforcer de vivre selon ses voies. Alors Dieu dit, quand un de ceux-là meurt, parce qu'il le permet, qu'il le veut, c'est qu'elle a du prix. Dieu s'en souvient pour ramener cette personne-là à l'existence, au moment du retour de Christ, pour que la personne soit debout sur ses pieds et reçoive sa couronne. Hein, c'est bien marqué dans Apocalypse 3, lorsqu'il parle des gens de Philadelphie, des serviteurs fidèles de Dieu. Il dit « Retenez votre couronne afin que personne ne prenne votre couronne. » C'est la chose la plus précieuse. Notre appel, notre avenir, ce que Dieu décrit comme étant notre couronne, parce qu'on va régner sous le Christ dans le monde à venir. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais, dans ce message qui est un hommage à M. Appartient aussi, que j'ai connu depuis de nombreuses années, qui nous a tellement encouragés, qui nous a appris, mon épouse et moi, plein de choses. On a été en rapport régulier et dans sa bonté, dans sa patience, il nous a enseigné plein de choses. Il nous a toujours encouragés, soutenus. Maintenant, après son décès, un de ses vieux amis, M. Meredith, qui est le chef de l'Église actuellement, a écrit un petit mot à sa mémoire. Et je vais vous en lire la traduction ici. Ça vous donne un peu le caractère du personnage de M. Appartient. Et ça vous donne en même temps des éléments de son histoire que vous ne connaissiez pas. Et ça vous le situe dans le temps. Ça vous montre comment Dieu a travaillé avec lui, un peu semblable à la façon dont Dieu a travaillé avec certains de ses serviteurs dans le passé. Et il y a des parallèles frappants. Et vous allez voir, c'est tellement encourageant. Alors, je vous lis ce que M. Meredith a écrit le 9 décembre dernier. Le titre « À la mémoire de M. Dibard appartient ». Un autre chêne majestueux est tombé. Notre cher frère et ami, l'évangéliste Dibard Cricard appartient, est parti pour un repos bien mérité. Oh oui, il a travaillé tellement fort. M. Appartient a vécu 94 années, pour ce qu'on sait. 24 de plus que le roi David, qui s'était éteint, rassasié de jours, à l'âge de 70 ans. L'Éternel Dieu a utilisé M. Appartient pour mettre en place son œuvre en langue française, puis pour guider et superviser cette œuvre pendant plusieurs décennies. À travers son ministère en langue française, à travers les sermons et ses articles en anglais, à travers son affection et sa bonté bien connue, M. Appartient a eu un impact formidable dans la vie de milliers de personnes à travers le monde, y compris nous ici, et nos frères et sœurs en Belgique, en France, en Haïti, en Martinique, ailleurs à travers le monde, dans les pays africains aussi de langue française. M. Meredith continue en disant ceci. J'ai rencontré M. Appartient pour la première fois en 1955. Richard David Armstrong venait juste de l'embaucher comme professeur de français à l'Ambassadeur Collège à Pasadena, en Californie. Peu avant, M. Appartient avait répondu à une offre d'emploi de professeur de français paru dans un journal en rapport avec l'éducation. Avant d'obtenir le poste, il eut un entretien avec M. Herbert Armstrong. M. Appartient répétait souvent qu'il avait été impressionné par la compréhension et la sincérité de M. Armstrong. Il m'avait dit à de nombreuses reprises, Rod, tout ce que je cherchais, c'était un poste pour enseigner le français à la faculté du collège. Mais il semble que M. Armstrong voulait que je comprenne ce qu'était réellement le collège et l'œuvre de Dieu. Ainsi, il m'a parlé pendant 2 heures et demie lors de notre première rencontre. M. Armstrong a parlé pendant 2 heures et demie du but de l'existence humaine et du but de l'œuvre. Ainsi, il m'a parlé donc pendant ces 2 heures et demie. À cette époque, je ne comprenais pas bien tout cela. Il n'était pas encore converti à ce moment-là. Cependant, j'étais très impressionné et j'étais heureux de faire partie d'une institution dirigée par un homme aussi clairvoyant que M. Armstrong. Pendant les décennies suivantes, M. Appartient et son épouse Shirley sont devenus de bons amis de M. et Mme Armstrong. Ils possédaient tous les deux un degré de culture, de dignité et de distinction que M. et Mme Armstrong appréciaient. Ils organisaient souvent chez eux des dîners élégants pour des membres de la faculté et des amis de l'Église. Et on a eu l'occasion d'être invités à quelques reprises, mon épouse et moi, et c'était vraiment très, très particulier. Même la dernière fois que nous sommes allés à Charlotte pour la télévision, M. et Mme Appartient, même si M. Appartient était déjà malade, a tenu à ce qu'on aille manger avec eux chez eux. Il est venu, sa secrétaire est venue nous chercher en voiture, il était là. Et même s'il avait certaines difficultés à la maison, il tenait à ce qu'on s'assoie et qu'on parle ensemble. Mais ça a été le dernier repas qu'on a pris ensemble, ça a été chez lui malgré sa fatigue. Et je me rappelle, on était assis, lui et moi, au salon pendant que les dames étaient dans la cuisine. Et lorsque ça a été le temps d'aller manger, j'ai donné mon bras pour qu'il puisse se lever parce qu'à cause de son anémie et tout ça. Mais il tenait bon, puis il me parlait de l'œuvre, puis il fallait finir le travail et ainsi de suite. Ses yeux étaient sur le but. Monsieur Appartient voyageait avec M. Armstrong pour rencontrer des dignitaires. Il était toujours un compagnon agréable et intéressant pour tous ceux d'entre nous qui avions à traiter avec lui. Dieu l'a béni avec une formidable épouse, 2 fils et 1 petit-fils qu'il aimait beaucoup. Dibord Appartient a vécu une vie riche et mouvementée. Maintenant, je vous donne son histoire. Plusieurs d'entre vous, vous ne la connaissiez probablement pas, du moins les grandes lignes. Il est né en Turquie, de parents arméniens. M. Appartient est un Arménien, au début de l'atroce génocide arménien qu'il y a eu, parce que les Turcs ont tué des milliers et des milliers d'Arméniens à ce moment-là. Ça a été un holocauste. Les parents de M. Appartient furent avertis par des amis de ce qui s'en venait. Et ils purent le faire embarquer sur un navire afin d'épargner sa vie. Alors, ils ont mis le petit M. Appartient sur un bateau pour sauver sa vie. Alors qu'il avait 5 ou 6 ans, il a été envoyé à Marseille, dans le sud de la France, pour être pris en charge par des proches, par des parents en Suisse. Ceux-ci le placèrent finalement dans un orphelinat. Ils ne l'ont pas gardé, mais ils l'ont mis à l'orphelinat, où il passa les années suivantes et où il reçut la majeure partie de son éducation. Plus tard, il excella dans ses études et il acquit une excellente éducation en Suisse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il commença à travailler pour l'ambassade des États-Unis. Regardez comment Dieu prépare son monde, comment Dieu a travaillé avec lui. Il commença à travailler pour l'ambassade des États-Unis à Berne, en Suisse. Grâce à son intelligence, grâce à sa diplomatie et à sa courtoisie, il devint l'employé non suisse le plus haut gradé dans l'ambassade des États-Unis à Berne. Vous ne saviez peut-être pas cette... l'arrière-scène de la préparation de M. Appartient. Mais M. Appartient est un homme très doué, qui a travaillé énormément fort, même au niveau de son éducation et tout ça. Et j'entrerai pas dans les détails, mais c'était aussi un métaphysicien, un écrivain. Il était même, lorsque Dieu l'a appelé, il était sur le point de publier un volume très avancé au niveau de la métaphysique. Mais il a renoncé à ça parce qu'il a commencé à comprendre la vérité de Dieu qui était contraire à ce qu'il avait pensé jusque-là. Alors, ça a été arrêté. Alors, M. Appartient avait plusieurs cordes à son arc. Alors, donc, il est devenu comme ça le plus haut gradé de l'ambassade des États-Unis à Berne en tant que non-Suisse. M. Appartient trouva grâce, regardez bien, aux yeux d'un haut diplomate américain à ce moment-là qui était en visite à l'ambassade. Et ce haut diplomate l'a aidé, juste après la Seconde Guerre mondiale, à immigrer aux États-Unis. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait un plan pour ce jeune Arménien-là qui avait été éduqué en Suisse et qui avait gravi les échelons de la diplomatie et de l'administration gouvernementale. Alors, il a immigré aux États-Unis et il a commencé à travailler à New York comme professeur de français particulier, c'est-à-dire pour un élève à la fois. Il quitta ensuite New York pour Los Angeles, avec l'espoir de côtoyer les stars francophones d'Hollywood. Il avait vu une possibilité là parce qu'il disait, bien, je peux peut-être enseigner, il nous en a parlé à quelques reprises, je peux peut-être enseigner à ces gens-là ou à leurs enfants le français et je vais me faire une carrière de cette façon-là. Et là, il a décidé de postuler pour un poste de français au collège. C'est à ce moment-là, Dieu a mis sa main, je ne vous donne pas les détails, mais Dieu a mis sa main. C'est pas à Hollywood qui a fait application, mais il a vu l'annonce pour le collège ambassadeur, le collège de l'Église de Dieu. Et il a fait application pour ça. C'est ainsi qu'il rencontra Richard Armstrong, le garçon de M. Herbert Armstrong, et qu'il entra à l'ambassadeur collège. Dès lors, il devint mon ami, c'est M. Meredith qui parle, et même mon plus vieux et plus ancien ami personnel depuis plus maintenant de 55 ans. Alors, c'est pas d'hier. D'abord appartient Richard David Armstrong, Benjamin Ray, qui était en charge du département hispanophone et doyen de l'ambassadeur collège à Brickettwood, et moi, nous avons été pendant des années les quatre célibataires de la faculté de l'ambassadeur collège. C'était des jeunes hommes à l'époque là-bas. Nous avons partagé de nombreux repas. Nous avons fait des randonnées en montagne et d'intéressants voyages ensemble. Bien que M. Appartient fût plus âgé, il nous a survécu, sauf moi, qui étais le plus jeune des quatre. Il voyagea beaucoup à travers l'hémisphère nord et en particulier en Europe, souvent au service de Dieu. Son abnégation pour enseigner et mettre en pratique le mode de vie de Dieu est devenue sa marque de commerce. Sa chaleur, sa personnalité attentionnée et son enthousiasme pour bâtir l'œuvre francophone et pour servir l'ensemble du peuple de Dieu vont beaucoup nous manquer. Personnellement, les conseils et les encouragements d'un de mes meilleurs amis sur la terre vont me manquer particulièrement. Oui, un chêne majestueux est tombé. Bien qu'il nous manque à tous, nous nous réjouissons que Dieu ait donné à son serviteur, Dibor Appartient, 94 années au moins d'une vie productive et pleine de rebondissements. Et nous pouvons nous réjouir que cette vie intéressante l'ait été au service de notre grand Dieu. Nous attendons maintenant avec impatience et enthousiasme de revoir notre ami Dibor Appartient lors de la résurrection à venir. Nous sommes certains qu'il sera là et qu'il nous accueillera encore une fois avec son grand sourire. Que Dieu hâte ce jour. Roderick C. Meredith. Alors, je pensais que vous seriez touché comme moi par ces paroles de M. Meredith qui décrivent qui était M. Appartient, comment on a été béni d'avoir ce serviteur-là qui nous a aidés pendant des années et qui a tracé la voie. Maintenant, avec ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre pourquoi j'ai été touché puis frappé par le témoignage de trois membres de l'Église qui, après avoir appris le décès de M. Appartient, ont vu un parallèle intéressant entre M. Appartient et Moïse, si vous y pensez comme il faut, dans le cheminement, là, dans le vécu, dans la vie qu'ils ont vécue. D'abord, tout petit, placé sur l'eau pour être sauvé de la mort. Moïse, ça a été son cas au tout début, et ça a été le cas de M. Appartient. Ils ont tous les deux été recueillis dans un pays qui était alors prospère. Et tous les deux ont reçu une éducation de haut niveau et une culture de haut niveau. On voit par la biographie de M. Appartient que je viens de vous mentionner, qui est allé dans les plus grandes écoles, qui a appris au niveau de la diplomatie, dans les bureaux les plus renommés à travers le monde, au niveau de l'ambassade des États-Unis en Suisse et tout ça. Comme Moïse avait appris à la cour de Pharaon, parce que Moïse était un général d'armée, il avait appris l'administration, la planification militaire et tout ça. Alors, les deux ont une expérience gouvernementale, une expérience, un entraînement à diriger des gens, à servir des gens aussi. Hein? Vous savez, quand on met tout ensemble les détails comme ça, c'est frappant. Et les deux ont été désignés par Dieu pour diriger son peuple. C'est frappant quand on met ensemble les différents éléments comme ça, on voit le parallèle qu'il y a. C'est frappant dans ce cas-là. Bien sûr, M. Appartient demeure un homme, comme Moïse était un homme aussi, comme l'apôtre Paul était un homme, comme nous. C'est pas question d'idolâtrer personne, mais il faut reconnaître à qui de droit, ses qualités, son caractère, ce qu'il a fait et ce que Dieu a fait avec lui, comme ce que Dieu a fait avec Moïse. Allez à Hébreux chapitre 11, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11. Vous savez que le chapitre 11 du livre aux Hébreux, c'est le chapitre qui décrit les hommes et les femmes de foi à travers l'histoire. Ceux qui ont, en esprit, vu de loin la récompense, qui ont vu le but, qui ont vu le monde à venir, qui ont vu la nouvelle Jérusalem, comme c'est marqué dans le cas, d'Abraham, mais qui se sont endormis sans l'avoir reçu, sachant que c'était pour un temps plus éloigné. On peut ajouter à cette liste-là, je pense, le nom de l'apôtre Paul, le nom de l'apôtre Pierre. On peut ajouter à cette liste-là le nom de M. Armstrong, sûrement. On peut ajouter à cette liste-là aussi le nom de M. Dibord Appartient, qui a été notre exemple en tellement de choses. Maintenant, on peut voir aussi, et ça m'a frappé quand je réfléchissais à tout ça, on peut voir un parallèle aussi entre l'attitude et la vie d'Abraham et l'attitude et la vie de M. Appartient. Il y a aussi des ressemblances, là. C'est pas surprenant, parce que c'est les fils de Dieu, du même Dieu, qui doivent avoir le même caractère. Donc, ils doivent agir de la même façon. Alors, il ne faut pas que ce soit surprenant qu'il y ait des ressemblances. On se ressemble dans une même famille. On a des traits communs. Alors, surtout dans la famille spirituelle. Alors, quand vous regardez Abraham, par exemple, Hébreux 11, verset 10. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, la Jérusalem céleste, qui doit venir plus tard, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous connaissez ce passage-là comme il faut. Allez, verset 13 maintenant. C'est dans la foi qu'Abraham et les autres serviteurs fidèles, c'est dans la foi qu'ils se sont endormis, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce qu'on est, nous aussi. Ça nous fait réaliser, ça. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit présentement, bientôt, ce sera disparu, ce sera chose du passé. Et ce sera le monde à venir qui sera là. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, ou un pays, ou un monde, un autre monde. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, comme Abraham aurait eu le temps de retourner en Chaldée. Mais il n'est pas retourné en Chaldée. Il attendait d'autres choses. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, une patrie meilleure, un pays meilleur, c'est-à-dire une céleste qui va venir du ciel, le gouvernement de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé cette cité qui s'en vient bientôt. Et ça, c'est exactement comme nous. Ce que Paul attendait, ce qu'Abraham attendait, ce que M. Armstrong attendait, ce que M. Appartient attendait, nous l'attendons aussi. Allez juste un peu plus loin, dans Hébreux chapitre 13. Regardez comment c'est encourageant. Hébreux chapitre 13 et le verset 14. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Quel que soit le nom de votre ville n'est pas permanente et ce n'est pas votre résidence dernière. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui est à venir. Et M. Appartient s'est appliqué toute sa vie à nous dire, gardez vos yeux sur le monde à venir, sur le chef de l'Église, sur le Christ, celui qui fait arriver les choses. Et le Christ, c'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance. Allez dans 2 Timothée 1. 2 Timothée 1, s'il vous plaît. Le Christ a réduit la mort à l'impuissance. Il a déjà remporté la victoire. 2 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. Il nous a sauvés, le Christ. Il nous a adressé une sainte vocation. Il nous a appelés. Non à cause de nos œuvres. Oh non! Oh non, ce n'est pas à cause de nos œuvres. À cause de sa miséricorde. Mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Parce que Dieu avait décidé longtemps d'avance que le Christ allait mourir pour nous, qu'il allait appeler des gens à cette époque-ci, au temps de la fin en particulier, pour terminer le travail. Verset 10, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance. Ça, c'est fait. Il reste à compléter le processus, si vous voulez. Mais la mort, elle a été vaincue. Le Christ est ressuscité. Et un jour, la mort sera éliminée. Il n'y aura plus aucune larme, il n'y aura plus de tristesse. Qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Regardez maintenant le verset 11 et 12. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Et c'est pour ce même Évangile que M. Appartient a été établi prédicateur et évangéliste, chargé d'instruire les païens dans le cas de Paul. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Et M. Appartient a eu sa part de souffrance, je le sais. On a vécu proche de lui longtemps. M. Appartient a eu des énormes souffrances, des énormes déceptions au cours de sa vie. Mais il a toujours tenu bon. Il faut garder les yeux sur ce qui s'en venait, sur le Christ. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et M. Appartient le savait aussi. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et M. Appartient s'est endormi avec cette conviction que Dieu allait garder son dépôt, c'est-à-dire son esprit, jusqu'au jour de la résurrection. Versets 6 et 7. Regardez ce que M. Appartient nous a dit tellement souvent. Et je rattache ça à ce que je viens de vous lire le concernant comme un message qui s'adresse de sa part encore à nous. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Si on peut compter là-dessus, comme le soleil se lève chaque jour. Ecclésiaste 7, s'il vous plaît. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste chapitre 7. Un passage qui nous dit de réfléchir dans certaines circonstances. Ça aussi, je m'en rappelle à différentes occasions. Ecclésiaste 7, regardez le verset 14. « Au jour du bonheur, sois heureux. » J'arrête ici. Parce que dernièrement, M. Appartient nous a parlé à deux ou trois reprises dans des messages en disant « Quand vous avez des bénédictions ou quand vous avez des moments heureux, ne perdez pas de temps à penser à des choses négatives. Goûtez ce que vous avez, ou goûtez ce que vous faites, ou goûtez les temps de repos que vous avez quand c'est un temps de repos qui vous est donné. Appréciez-le. Passez pas votre temps à vous inquiéter des choses à venir ou à regretter les choses passées que vous ne pouvez ramener ni changer. Ça fait partie d'être toujours joyeux. Appréciez les choses qu'on a, prendre le temps d'y goûter. Pas être dans le passé, ni être dans le futur. Être là, avec Dieu devant lui. Alors, il dit, au jour du bonheur, sois heureux, goûte-y. C'est ce que M. Appartient nous disait souvent. Et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Ou dans certaines versions, au jour de l'adversité, réfléchis. Pense. Parce que, de façon générale, c'est marqué après, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Et de façon générale, les êtres humains ne savent pas ce qui vient. Mais n'oubliez pas une chose. Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent. Il les avait révélées à Paul, à M. Armstrong, à M. Appartient, et il les révèle à nous pour nous encourager de tenir bon dans les temps difficiles et dans nos épreuves que nous avons tous inévitablement à passer, qui sont des moyens de nous entraîner aussi pour le monde à venir. Tout ça sert à quelque chose. Dieu se sert de tout ça. Alors, il dit, réfléchis au jour de l'adversité. Et je me rappelle que M. Dibard Appartient, lorsque M. Armstrong est décédé, M. Appartient a réfléchi beaucoup. Et M. Appartient s'est dit à ce moment-là, Satan va attaquer. Il nous en avait parlé. J'ai revu des notes. J'ai mes notes de sermon depuis que je suis dans l'Église, au début des années 1970. J'en ai. Et quand j'ai retourné voir des notes de sermon de M. Appartient, il avait bel et bien dit, « Attention, Satan va attaquer. » Et Satan a attaqué après la mort de M. Armstrong. C'est pas venu dans la première année, mais c'est venu assez rapidement. Et M. Appartient le savait. Dieu avait averti. M. Appartient avait réfléchi dans les temps d'adversité, quand M. Armstrong est décédé. Là, M. Appartient vient de mourir. À nous de réfléchir. Satan va attaquer. Satan va attaquer. De l'extérieur ou de l'intérieur. Et là aussi, j'ai aimé la prière de M. Burns. Je pense que Dieu l'a inspiré de parler de cette façon-là, de nous donner d'être forts par rapport à ce qui peut venir même de l'intérieur de l'Église, à rester fidèle à Dieu, basé sur sa parole, qui est la vérité, et à suivre l'exemple qui a été tracé devant nous par des hommes comme M. Armstrong et M. Appartient. Maintenant, pour continuer mon message d'aujourd'hui dans le même ton, et comme pour qu'on se rappelle les admonitions, les avertissements, les encouragements de M. Appartient, je veux vous rappeler quelques éléments qu'il nous a donnés il y a 18 mois, lors de sa dernière visite ici à Québec. C'était le 31 mai 2009. Je vois des sourires parce que le 31 mai 2009, ça a été pour certains leur contact avec l'Église. Et M. Appartient, c'était le jour de la Pentecôte en 2009. Et M. Appartient a donné une conférence publique pour ceux qui étaient sur nos listes d'abonnés. Il y a un certain nombre de personnes qui étaient venues. Et de ce nombre-là, nous en avons trois ici à l'Église de Québec qui sont là maintenant et qui sont en route vers d'autres étapes dans l'Église. Et c'est vraiment formidable. Alors ça, c'est des fruits du travail de M. Appartient aussi. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce jour-là, il nous avait donné une vision spéciale de ce qui s'en venait. Et moi, mon impression, c'était qu'il nous donnait comme un testament spirituel pour nous, afin que nous continuions. Il ne savait pas le temps qui lui restait exactement, mais je pense qu'il avait l'impression que c'était peut-être sa dernière visite. Nous, on avait cette impression-là, mon épouse et moi aussi, et on en a profité pour lui faire visiter certains endroits particuliers que nous savions allaient les encourager de façon spéciale, et on l'a fait, je suis content qu'on l'ait fait, parce qu'effectivement, ça a été son dernier voyage parmi nous ici. Mais il nous avait dit à ce moment-là, puis je vous résume en gros, parce que c'est bon qu'on se rappelle ces choses-là, il ne les a pas données pour rien. Vous savez, c'est comme je vous dis, c'est comme un testament spirituel. Et ça, c'est un rappel pour dire ces paroles comme si lui-même vous les disait encore, parce que les choses ont même avancé depuis ce temps-là. M. Appartient avait dit, l'Amérique commence à faire faillite, et avant longtemps, elle sera en déclin total. Et depuis les derniers 18 mois, vous savez tout ce qui s'est passé et vous savez tout ce qui est en train de s'enclencher aussi du côté de la chute de l'Amérique. Les journaux, comme il mentionnait à ce moment-là, les journaux commencent même à parler de quelque chose d'inhabituel, d'incompréhensible dans ce qui se passe sur la scène mondiale, au niveau économique, au niveau de la température, au niveau de la corruption qui se répand de plus en plus dans nos gouvernements, dans nos différentes institutions. M. Appartient avait dit, vous allez voir, les journaux commencent à réaliser et à souligner l'état des choses actuelles qui sont vraiment en déclin. Et la grande puissance américaine est en chute. Et il nous avait dit à ce moment-là, il dit, le Conseil des anciens a parlé de la fin du monde dernièrement, de la fin de notre société, alors que le Christ va bientôt revenir. Mais le Conseil des anciens en a parlé d'une façon spéciale pour encourager les membres de l'Église à garder le sourire. Vous voyez la joie que je vous disais tantôt, malgré ces événements-là devant nous, malgré les autres qui vont venir, qui vont être sans doute pires que ce qu'on voit maintenant, il dit « gardez le sourire, parce que bientôt, la fin des souffrances humaines va se réaliser, selon la promesse de Dieu. » Mais oui, la vision qu'il nous a donnée à ce moment-là, je suis content d'avoir noté le plus possible de choses qu'il disait dans mon cahier, parce que j'ai pu les retrouver et je peux vous les donner comme si c'est lui qui vous parlait aujourd'hui par mon intermédiaire. M. Appartient a dit, les signes sont là. Les signes sont là partout autour de nous. L'Écriture, elle est sur la muraille. Vous vous rappelez la nuit que Babylone a été pris, que le système qui était le grand système mondial à l'époque, s'est effondré. Belshazzar donnait un festin. Comme aujourd'hui, les gens s'amusent, préparent les fêtes païennes, dépensent comme c'est pas possible, font la fête de toutes sortes de façons, parlent de sport, de tout ce que vous voulez, excepté parfois de la réalité, parce que les gens veulent pas voir la réalité en face. Pendant que tout ça se passe, il est écrit sur le mur que la fin approche. Les signes sont là. Et la nuit où ce fameux Belshazzar-là a donné ce grand festin-là et a fait venir les coupes qui étaient autrefois dans le temple de Dieu, il y a une main qui est apparue et sans bras qui a écrit sur le mur que c'était la fin ce soir-là. Et ça a été la fin telle que c'était écrit dans les textes. Alors, M. Appartient dit, l'Écriture, elle est sur le mur. Rappelez-vous de ça. Parfois, on a tendance à comme ramollir, à oublier un peu. Petit train va loin, ça fait longtemps qu'on se le fait dire. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on se le fait dire que c'est pas en train d'arriver. Faites attention de ne pas vous endormir. Il y a des vierges qui s'endorment plus profondément que d'autres à un moment donné. Faites attention de ne pas vous endormir. Et M. Appartient avait dit, quoi qu'il arrive, tenez bon. Quoi qu'il arrive, tenez bon. Ne remettez jamais en doute l'amour de Dieu et son désir de vous voir parvenir au succès. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous manquiez votre coup. Dieu vous a appelé parce qu'il savait qu'avec son aide, vous pouviez y arriver. Alors, à vous de ne pas détourner les yeux de lui et malgré les difficultés ou malgré les ténèbres qu'il peut y avoir autour, de garder pleine confiance en lui. Les choses vont aboutir au mieux. Tout concourt au bien pour ceux qui sont appelés et qui aiment Dieu, c'est-à-dire qui s'appliquent à vivre selon ses voies. Dieu va les sortir de la difficulté et de la misère. Regardez le cas de Job. Pendant que Job avait ses tribulations, ses difficultés-là, il ne voyait rien de beau. Pourtant, Job n'a pas remis en question Dieu d'aucune façon. Et regardez ce qui est arrivé après. Même sur le plan physique, Job a été béni plusieurs fois que ce qui était béni auparavant. Regardez le cas de Joseph. Joseph vendu par ses frères, là. On lit ça ces deux lignes, là. Mais vous êtes un jeune homme, vos frères vous vendent à des étrangers qui vous attachent, qui vous emmènent captifs dans d'autres pays. Comment vous vous sentez? Il n'a pas remis Dieu en question. Il n'a pas dit, moi j'aime Dieu, puis regarde où je me retrouve maintenant. Je souffre, j'ai de la... Non, nulle part vous voyez Joseph qui se plaint de ça. On voit même Joseph après, pour avoir obéi aux lois de Dieu, en ne couchant pas avec la femme de Potiphar, qui a été mis en prison. Et là, je pense qu'il y a eu une période d'une dizaine d'années avant qu'il sorte de là. Tout ce temps-là, Joseph a gardé quand même les yeux sur Dieu et sur le fait que Dieu allait le délivrer d'une façon ou de l'autre. Un peu comme Daniel dans la fosse aux lions avec ses compagnons. Il dit, si Dieu décide de nous laisser mourir, bon, c'est son choix, je suis d'accord. Mais si Dieu décide de nous délivrer, Nabuchodonosor, tu ne peux rien faire. Même si ta fournaise est chauffée au maximum, tu ne peux rien faire. Alors, Joseph a tenu le coup. Et c'est des exemples que nous, on doit garder, ça. Parce qu'il y a des périodes dans notre vie où c'est sombre, où c'est plus noir, où on ne voit pas. Mais dans ce temps-là, il faut garder nos yeux sur le Christ, en sachant que lui va nous sortir, si moi je fais ma part, si je reste fidèle. 1 Pierre, chapitre 5. Monsieur Appartient a dit, Satan va attaquer, Satan va redoubler d'efforts pour nous faire perdre patience et pour nous amener à douter. S'il peut nous amener à douter, déjà il y a un pied dans la porte. Déjà il est en train de nous déstabiliser. Ne doutez pas de Dieu. Combien de fois M. Appartient nous a dit ça? Ne doutez jamais de Dieu. Confiez-vous à lui totalement. Il va agir. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 8. Soyez sobre. Sobre, ça veut dire soyez maître de vous-même. Ne laissez pas n'importe quelle pensée entrer en vous. Ne les gardez pas, les pensées négatives. Et n'allez pas chercher des pensées négatives non plus dans toutes sortes d'émissions de télévision ou de films ou de choses de violence ou de perversité, de tout ça. Il dit, soyez maître de vous-même, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il dit, regardez, si vous tenez même dans la souffrance, là, il va vous perfectionner lui-même, il va vous affermir, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et moi, j'ai souligné ça en vert, parce que dans mon cas, j'ai choisi de souligner en vert dans ma Bible les promesses de Dieu. Tout ce qui est souligné en vert, c'est promesses de Dieu. Alors, je le vois tout de suite. C'est une promesse de Dieu. Promesse de Dieu, c'est un engagement. Et Dieu ne ment pas. Écoutez, vous savez pourquoi vous êtes ici. Et je sais pourquoi je suis ici. Dieu nous a appelés à faire une œuvre. Il ne nous a pas appelés d'abord pour qu'on soit sauvés, comme M. Appartient a expliqué souvent. Il nous a appelés d'abord pour qu'on fasse l'œuvre, qu'on soutienne l'œuvre par nos prières, par nos encouragements les uns aux autres, par les services les uns aux autres, par le soutien de l'œuvre, par nos dîmes, et ainsi de suite. C'est pour ça que Dieu nous a appelés, et pour nous préparer à servir dans le monde à venir. Et en même temps, si on fait ça, on a le salut qui nous sera accordé. Mais on n'est pas d'abord appelé pour être sauvé. Comptez sur Dieu. Il nous disait ça, je l'ai marqué ici comme il faut. Comptez sur Dieu qui agit en son temps. Et j'ai souligné le son. Comptez sur Dieu qui agit en son temps. Et après ça, M. Appartient nous a dit, M. Gerald Weston, qui est le directeur canadien de l'œuvre, a été un de mes étudiants. Il dit, je lui ai enseigné quelques années. Et il dit, sachez que c'est un homme humble qui a de grandes capacités. Et c'est un bon serviteur de Dieu. Regardez son exemple. J'ai aimé ça qu'il nous mentionne ça. Et la dernière fois qu'on est allé à Charlotte, moi, à mon épouse et moi, lors d'un repas avec M. Appartient, il nous a encore mentionné la même chose. Il a dit, monsieur, votre directeur au Canada, M. Weston, est un homme fidèle, un homme humble, un serviteur de Dieu sur qui vous pouvez compter. J'étais content qu'il nous mentionne les choses de cette façon-là. Et M. Appartient nous a raconté ce qui lui est arrivé dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il s'est servi de ça pour nous avertir de comment faire les choses à l'époque où nous sommes rendus. M. Appartient, vous allez vous en rappeler, il dit, j'étais étudiant en Suisse quand la Deuxième Guerre mondiale s'est déclarée. Aucune idée de ce qu'est la guerre à ce moment-là pour lui ou à peu près. Il dit, je connaissais pas ça. Il dit, un matin de septembre, soudain, Hitler envahit la Pologne. Paf! Ce matin-là, M. Appartient dit, je voulais aller, comme d'habitude, prendre un café puis acheter du pain, voisin de où il restait. Impossible. Tout était fermé. Tout était arrêté. Impossible d'avoir un pain. Impossible d'avoir un café. C'est ça qui arrive parfois lorsque les choses basculent d'un coup sec. Alors, lui a vécu cette situation-là. Et là, il en a profité pour nous dire ceci. Et c'est un rappel de ce que M. Meredith nous avait dit il y a 2 ans. Il dit, mettez de côté des choses. Mettez de côté des choses. Préparez-vous, faites certaines provisions. Pas pour 10 ans, pas pour 2 ans, mais faites certaines provisions pour pas être pris à court lorsqu'il va arriver des situations subites où vous allez devoir être en état de survie, je dirais. C'est ce qu'il a expliqué. Ayez à portée de la main un peu d'argent liquide, ayez de la nourriture pour quelques jours ou quelques semaines et ayez de l'eau pour quelques semaines aussi. De sorte que s'il arrive un événement soudain, vous pouvez simplement ne pas bouger pour une certaine période et avoir le temps de vous réorganiser. Ça, c'est la part qu'on doit faire avant que ces choses-là se produisent. Il va arriver des choses. Il va arriver des choses. Vous avez vu cette semaine que c'est fort possible qu'on... C'est pas possible, mais c'est possible. Mais qu'au niveau de l'électronique, par exemple, on puisse paralyser des sites Internet, qu'on puisse paralyser l'utilisation de l'électronique, des ordinateurs. Est-ce que je peux vous rappeler une réalité? C'est que nos sociétés modernes dépendent entièrement des ordinateurs. Même pour que les camions d'alimentation soient chargés dans une région pour amener la nourriture dans les régions, tout fonctionne par ordinateur. Tout. L'acheminement de l'essence, l'essence à la pompe, tout ce que vous voulez. Tout fonctionne par ordinateur maintenant. Et on sait qu'il peut y avoir des cyberattaques, qu'ils appellent, où on peut paralyser un pays dans le temps de le dire. Alors, c'est pas pour rien que le vieux serviteur de Dieu nous a rappelé cette réalité-là en disant, faites quelques provisions. Ne soyez pas inquiète ou de la mesure, vous êtes entre les mains de Dieu, mais faites votre part et Dieu va faire la sienne. Faites votre part et Dieu va faire la sienne. C'est pas pour rien qu'il y a 18 mois, M. Appartient, lors de son dernier voyage, a pris la peine de nous rappeler cette réalité-là. Mettez des choses de côté. Et ne portez pas attention en ce qui concerne la perception que les gens ont du monde actuel ou la perception qu'ils ont de ce que nous annonçons, le monde à venir, de ce que nous annonçons le retour de Christ pour établir son gouvernement sur la terre et tout ça. Parce que il est bien dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs partout autour qui vont dire « Ça fait longtemps que vous en parlez du retour de Christ. Est-ce qu'il est revenu, le Christ? Est-ce qu'il est là? Ça fait des centaines d'années que les gens en parlent et tout ça. » La Bible est très claire là-dessus, mais M. Appartient a dit « Faites attention de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que c'est pas parce que ça fait un certain temps que ça n'arrivera pas. » Vous vous rappelez l'histoire de Noé? Noé a annoncé le déluge pendant une centaine d'années. Au début, ça, les gens devaient porter attention. Après ça, ils ont dit « Noé, pas normal ». Et après ça, comme on a vu dans certains endroits, ils ont fait probablement des chansons à boire sur l'arche de Noé et tout ça. Mais le jour où la porte de l'arche a été fermée et l'eau a commencé à tomber, ça, c'était la réalité. Elle avait été annoncée longtemps d'avance. Et c'est la même chose pour le retour de Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 3. On est tout proche. Allez dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. 2 Pierre 3, versets 3 et 4. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. » Pour ça, pourquoi il dit « marchant selon leur propre convoitise » Parce qu'ils ne veulent pas changer. Et que nous, lorsqu'on annonce le message de l'Évangile, c'est l'Évangile qui contient le repentir aussi, de changer nos voies, de demander pardon à Dieu, d'observer les lois telles qu'elles sont faites, les 10 commandements et les autres lois que Dieu nous a données. Mais comme les gens ne veulent pas changer, comme c'est marqué ici, ils veulent vivre selon leur propre convoitise, ils rejettent le message et ils rejettent le messager et ça devient un sujet de moquerie. Sache que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il n'est pas encore revenu depuis tout le temps qu'on en parle. Mais un jour, les portes de l'arche vont être fermées. Et ceux qui seront à l'extérieur seront à l'extérieur. M. Appartient nous a dit, ce qui compte, écoutez, c'est de persévérer dans le repentir. Persévérer dans le repentir, de s'approcher de Dieu le plus en plus régulièrement par la prière, par le jeûne, en s'appliquant à vivre chrétiennement, en faisant l'œuvre, en supportant l'œuvre. Et chose intéressante, M. Appartient mentionnait ça assez régulièrement dans ses sermons. Il disait, écoutez, dans la vie chrétienne, là, on ne réussit pas tout en une seule fois. C'est progressif. Et heureusement qu'on le voit comme ça parce qu'on se découragerait. Et M. Appartient nous le montrait dans ce sens-là. Il disait, n'oubliez pas une chose, ce n'est pas parce qu'on perd une bataille qu'on perd la guerre. Si vous perdez une bataille, relevez-vous plutôt. Demandez pardon à Dieu, demandez-lui son aide et continuez, persévérez. C'est ça la persévérance. Il disait, ce qui compte, c'est de gagner la dernière bataille. Et celle-là, pour la gagner, il faut être encore là. Dans le sens qu'il faut avoir continué, il faut avoir persévéré à livrer combat, pas avoir baissé les bras. Mais être toujours sur nos gardes, puis être prêt à changer, puis à continuer à le faire, puis pas se décourager quand on manque notre coup temporairement, qu'on demande pardon à Dieu, puis qu'on recommence la lutte, et Dieu nous aide à ce moment-là. Persévérer jusqu'à la fin, c'est bien marqué dans la Bible, hein? Et c'est là qu'est notre salut. M. Appartient a précisé en disant ceci, et là, il pensait à son départ possible, et possiblement même M. Meredith, si le cas advient. Monsieur Appartient avait dit, il y a 18 mois, à Québec, au Québécois, le jour de la Pentecôte, il nous avait dit, la prophétie ne s'arrête pas avec M. Meredith ou avec Dibord Appartient. La prophétie ne s'arrête pas avec M. Meredith ou avec Dibord Appartient ou avec moi. Et là, il avait précisé, il dit, dernièrement, dans un conseil des anciens, ça va vous rappeler quelque chose, il a été décidé que si M. Meredith n'était plus capable d'exercer ses fonctions ou s'il décédait, ce serait M. Richard Ames qui prendrait la direction de l'Église, qui a été désigné comme celui qui allait continuer le travail. Et il dit, on voit revenir des gens à l'Église, en plus. Alors, s'il arrivait un cas comme ça, déjà c'est prévu la suite des choses. Et il dit, on voit revenir des gens. Mais il dit, vous, dans les églises francophones, ne vous inquiétez pas. Dieu a pourvu. Dieu vous a donné des ministres dans chaque région du monde. Et Dieu va en appeler d'autres aussi. Et il avait dit à ce moment-là, vous, dans la région de Montréal, M. Secours est avec vous, il va prendre soin de vous. Il avait dit, vous, dans la région de Québec, Saguenay, Edmundston, M. Brochu est là pour vous servir, il va continuer à vous servir. Il avait mentionné que du côté de la France, M. Lardé était là en tant que fidèle serviteur ordonné pour prendre soin de l'Église. En Suisse, M. Roland Lecoq a été ordonné ministre. Il fait le travail de servir l'œuvre, de s'occuper des appelés de Dieu dans cette région-là. Aux Antilles, M. Gignier s'occupe de nos frères antillais là-bas. Alors, M. Appartient avait dit, regardez là, soyez pas inquiète si je ne suis plus là. déjà, il y a en place un certain nombre de ministres qui vont prendre soin de l'Église et qui vont continuer le travail. Et là, il avait ajouté un exemple qui m'avait vraiment frappé. Puis vous allez voir, il a dit, écoutez, on est tout petit, on a peu de moyens, comme c'est marqué dans Apocalypse aussi, mais on a une grande œuvre à accomplir et Dieu peut susciter de nulle part de l'aide qui nous arrive à un moment donné. Puis il nous a donné un exemple qui est réel, qui vient de se produire dans l'Église, qui s'était produit à ce moment-là. Il nous a parlé d'Haïti. Chapartien aimait profondément Haïti. Il est allé plusieurs fois. D'ailleurs, il a donné une conférence publique à un moment donné à Haïti. Il y avait eu 1200 personnes qui s'étaient présentées à sa conférence publique. Et le titre de sa conférence était « Quand viendra la fin? » Et M. Chapartien avait expliqué que les gens là-bas souffrent tellement. Et c'est pas moins maintenant, hein, ça continue encore plus. Les gens souffrent tellement que lorsqu'ils voient une possibilité d'un changement ou d'un espoir, ils s'accrochent à ça, ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Alors c'est pour ça probablement qu'il y avait eu 1200 personnes à cette conférence publique de M. Appartient là-bas, dans les îles. Ça l'avait vraiment touché. Mais voici, M. Appartient dit, bon, on est tout petit, on n'a pas beaucoup de ministres, et là, il n'y avait pas de ministre pour s'occuper directement d'Haïti. Et de nulle part, dans un sens, il était déjà membre d'Église, mais M. Wilner Pierre est apparu. M. Wilner Pierre, membre de l'Église de Dieu depuis longtemps, haïtien de naissance, marié à une haïtienne, vivant aux États-Unis, propriétaire de 2 ou 3 cliniques là-bas. M. Wilner Pierre vend ses cliniques, déménage à Charlotte et dit à M. Appartient, « Je suis à votre service pour aider mes frères en Haïti. » Je vais y aller aussi souvent que possible. Je vais y aller à la fête si vous voulez que j'aille. Je vais m'occuper d'eux autres. Et depuis ce temps-là, M. Wilner Pierre aide ses frères haïtiens, ses frères dans l'Église et ses frères en tant que peuple. C'est formidable. Et là, M. Appartient a dit, regardez comment Dieu peut susciter, comme par surprise, pour ainsi dire, de nulle part, quelque chose dont on ne s'attendait pas du tout, à quoi on ne s'attendait pas du tout. M. Wilner Pierre est arrivé. Depuis ce temps-là, il fait un excellent travail. M. Appartient l'apprécie énormément et les frères en Haïti en sont vraiment heureux. Et M. Appartient a ajouté, il dit, dans le passé, dans l'Église universelle de Dieu, on a payé des ministres pour aller là-bas. Et là, il dit, où est-ce qu'ils sont ces hommes-là maintenant? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Ils ne sont ni en Haïti ni ailleurs, ils ne sont plus dans l'Église. Et où M. Wilner Pierre arrive, il offre ses services, puis il le fait avec plein de bonne volonté. Voyez-vous comment Dieu peut travailler les choses? C'est vraiment, vraiment puissant de le voir à l'action. Alors, il a ajouté ensuite, M. Appartient, il dit, « Si quelque chose m'arrive, je l'ai écrit bien clairement ici, si quelque chose m'arrive, ne vous inquiétez pas. Continuez. Ne vous inquiétez pas. Des anciens membres de l'Église nous retrouvent actuellement. Un peu partout à travers le monde. Et à ce moment-là, nos frères de Belgique n'étaient pas encore revenus avec nous. Ils étaient avec nous, nos frères de Belgique, avant, autrefois. Mais au moment où M. Appartient est venu, il y a 18 mois, M. Ellis et son groupe n'étaient pas encore revenus avec nous. Mais c'était en pourparler. M. Appartient, qui était un ami de très longue date de M. Jean Carillon, qui était le chef de ce petit groupe-là, qui était avec nous auparavant, c'était des amis de très, très longue date. Même M. Jean Carillon avait dit, « M. Appartient, on va être enterrés dans le même cercueil, vous et moi. » Et puis, M. Carillon, c'est un colosse, vraiment un colosse, là. Et M. Appartient lui avait dit, « On ne rentrera pas tous les deux dans le même cercueil, M. Carillon. » Et quand il l'avait revu, il avait fait des blagues ensemble, et M. Carillon avait beaucoup maigri parce qu'il était atteint de maladie. Et ils avaient fait une blague ensemble en disant, « Mais peut-être que ce serait possible maintenant. » Alors, c'était vraiment, vous savez, des amis très proches. Les uns des autres, l'un de l'autre là-bas. Et M. Appartient se préoccupait beaucoup de ce groupe-là, parce que c'est nos frères. Et depuis ce temps-là, ben, les efforts de M. Appartient ont porté fruit, et M. Ellis est avec nous, et nos anciens frères de l'Église universelle sont revenus avec nous, du côté de la Belgique. Alors, c'est une grande bénédiction. Je sais que M. Appartient était très heureux de ça. Et il dit, écoutez, en Afrique, au moment où il nous a parlé, il y avait 100 personnes qui demandaient qu'un ministre aille. Mais on n'a pas encore suffisamment la main-d'œuvre. Alors, il dit, priez Dieu pour que Dieu envoie la main-d'œuvre dans son œuvre, pour qu'on ait des ministres. Priez pour que Dieu nous donne les moyens nécessaires. Dieu a dit, je vous abandonnerai jamais. Hein? Le Christ a dit ça, c'est lui le chef de l'Église. Je vous abandonnerai jamais. Et Dieu ne nous abandonne jamais, mais il dit, il faut faire notre part. Alors, il dit, tenez bon, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Le Christ est toujours là. Il dit, même s'il y a une seule personne ou deux personnes qui reviennent à l'Église suite à une visite qu'on fait ou suite à un travail qu'on fait, il faut le faire. Ça, c'était son approche. Hein? Des fois, on lui disait, bien, monsieur, appartient, c'est un long voyage, vous êtes fatigué, vous êtes âgé, faut que j'aille, parce que si même une personne comprend la vérité et vient à l'Église, déjà, on a atteint notre but. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Il appliquait exactement ce qui est marqué dans la Bible, là où il est dit que... Il faut arracher du feu tous ceux qu'on peut. C'est marqué, je vous donnais le passage tout à l'heure concernant ce principe-là. Et M. Appartient disait, écoutez, dans nos pays, on a plein d'abondance. Mais il dit, ce que nous avons aujourd'hui, vous ne l'aurez peut-être pas demain. Mettez-vous ça dans l'esprit pour ne pas vous sentir malheureux quand ces choses-là vont arriver, si ces choses-là arrivent. Parce que comme ça, vous allez être déjà préparé mentalement. Dieu nous donne la vision et Dieu nous donne la promesse qui va nous amener à terme. Nous, c'est de nous appliquer à obéir et à faire son œuvre. Demain, le Christ sera là. C'est ce qu'il nous a dit. Et il est bien marqué dans Luc 21, verset 28, « Quand on verra les choses se produire, les choses du temps de la fin, les signes se développer devant nous, sachez que votre délivrance est proche. Levez la tête. » Alors, même dans les temps de noirceur ou de difficulté, levez la tête et voyez ce qui s'en vient. M. Appartient nous a invités de façon régulière dans l'Église à être unis. Et il faut qu'on soit unis de plus en plus. C'est pas pour rien qu'il demandait ça. Regardez le Christ lui-même sur la croix. Pas sur la croix, mais avant d'être trahi, avant d'être mis à mort. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu dans sa prière? Père, fais qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Alors, il faut qu'il y ait une unité plus grande dans l'Église. Et M. Appartient déplorait quand il y avait des tiraillements parfois, ou quelqu'un qui voulait avoir un poste, ou quelqu'un qui se pensait plus important qu'un autre. Il dit, écoutez, il donnait l'exemple du corps qui est fait de différents membres qui n'ont pas toutes la même fonction. Faites ce que vous pouvez là où vous êtes. Essayez pas de prendre la place de d'autres et n'enviez personne. Servez au mieux là où vous êtes et suivez les directives de ceux qui vous dirigent. Il nous a invités de façon régulière à être plus unis, à ne pas chercher la prééminence, mais surtout dans tout ça, à développer notre relation avec Dieu. Monsieur Appartient, c'est un homme qui a tout donné. Je ne vous l'apprends pas. Il a tout donné pour servir Dieu et puis pour servir ses enfants, dont nous aussi. Et il va bientôt lui arriver ce qu'il a souvent souhaité pour chacun d'entre nous. Il va entendre le Christ lui dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et nous l'a cité souvent, ce passage-là. Ça va lui arriver à lui. Et c'est ce qu'il voulait pour chacun de nous. Monsieur Appartient, comme je vous disais, il disait, j'irais même pour une seule personne si je devais faire un long voyage pour aider quelqu'un à comprendre la vérité ou pour servir une personne. Vous pourrez aller voir ce passage-là dans Proverbes 24, versets 11 et 12. Proverbes 24, versets 11 et 12, c'est notre responsabilité d'annoncer l'Évangile pour que tous ceux que Dieu appelle puissent être là et que le plus grand nombre puisse échapper à la grande détresse qui s'en vient. Son désir, Monsieur Appartient, que nous soyons fidèles jusqu'à la fin. Que nous soyons fidèles jusqu'à la fin. Que nous terminions l'œuvre avec zèle et avec courage, avec joie aussi. Que nous terminions l'œuvre avec zèle, avec courage et avec joie. Et son autre souhait, que nous soyons bientôt tous réunis. Je me rappelle, il nous disait, il savait que c'était pas possible, mais en pensant à la fête des tabernacles, il dit, je rêve un jour que tous les francophones soient dans le même site de fête. Qu'on soit tous ensemble. Ça n'a pas pu se réaliser, bien sûr, mais dans le monde à venir, très bientôt, ça pourra se réaliser. Certains ont un certain nom, et je termine là-dessus, certains noms ont un sens particulier, vous le savez, bibliquement parlant. Certains noms ont un sens particulier. Moi, je m'étais toujours demandé qu'est-ce que le nom de Dibar voulait dire. Parce que ce n'est pas un nom qui nous est connu ici. C'est un nom arménien, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Et à la fête des tabernacles, j'ai trouvé une occasion de le demander. Il y a 2 ou 3 ans, on était à la fête en Europe. On était dans un autocar avec M. Appartient. J'étais assis juste en avant de lui, avec mon épouse, avec M. et Mme Appartient en arrière de nous. Puis à côté, il y avait le fils de M. et Mme Jean-Jacques Dalle de France. Qui avait, je ne sais pas, 10-12 ans à l'époque, et quelque chose du genre. Et lui, son deuxième nom, c'est Dibar. C'est un enfant qui est né dans l'Église. Alors, comme deuxième nom, les parents lui ont donné, probablement à l'honneur de M. Appartient, le nom de Dibar. Alors, j'ai dit au jeune homme, j'ai dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Dibar? Il m'a dit non. J'ai dit, regarde, M. Appartient est juste là. Demande-lui. 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 Alors, il s'est tourné vers M. Appartient et il a demandé. Et M. Appartient a donné une réponse toute simple. Il dit, ça veut dire exemple. M. Appartient était vraiment un bel exemple de ce qu'est un vrai chrétien. En toute chose, il s'appliquait à servir, à suivre, c'est-à-dire l'exemple du Christ. Et ce faisant, il nous donne un exemple inspirant. D'où le titre de mon sermon, « Monsieur Appartient, un exemple » ou « Monsieur Appartient, Dibar ».